présenté ce soir par Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Un témoignage intense aujourd'hui au procès des attentats de janvier 2015, celui de Coco, la dessinatrice de Charlie Hebdo qui a survécu à l'attaque du journal. C'est elle qui, sous la menace des armes, avait ouvert la porte au frère Kouachi. Le compte-rendu d'audience de Florence Thiom dans un instant. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, veut une meilleure priorisation des tests Covid. En clair, réserver ces tests à ceux qui présentent des symptômes ou bien au cas contact. La stratégie de massification des tests montre là ses limites. Nous entendrons à ce sujet l'avis d'un épidémiologiste, Martin Blachier. Jean Castex, lui, va passer un test de dépistage car le Premier ministre a côtoyé samedi le directeur du Tour de France, Christian Prudhomme, détecté positif à la Covid-19. Première conséquence politique, le séminaire gouvernemental prévu demain aura lieu finalement en visioconférence. Le mystère autour du sort de l'opposante biélorusse Maria Kolesnikova. Elle aurait été arrêtée ce matin à la frontière ukrainienne après avoir refusé d'être expulsée de son pays, comme le souhaite le régime Loukachenko. Nous ferons le point avec notre correspondant à Moscou, Claude Bruyot. Le Royaume-Uni reconnaît violer le droit international en réclamant une révision de l'accord sur le Brexit. La tension n'en finit plus de monter entre Londres et Bruxelles, nous expliquera Marie-Pierre Véraud. Elle s'appelle Corinne Ray, mais on la connaît sous son nom de dessinatrice, Coco. Elle travaille à Charlie Hebdo et a vécu de l'intérieur l'attaque du journal le 7 janvier 2015. Coco fait partie des survivants et son témoignage puissant a marqué cet après-midi le procès des attentats de janvier 2015. On retrouve au nouveau palais de justice de Paris Florence Thiom. Bonsoir.
Bonsoir.
Florence, Coco a raconté comment, sous la menace des Kalachnikov, elle avait dû ouvrir la porte du journal, le frère Kouachi.
Oui, d'abord évoquer ceux qui lui avait donné des ailes. Jeune dessinatrice de presse qui rencontre, dit-elle, des gens à la fois sérieux et déconnants avec un vrai regard sur le monde. À la barre, silhouette menue, visage fin, cheveux noirs relevés sur le sommet de la tête, Corinne Ray parle d'un seul souffle, une demi-heure entière sans interruption, ses silences acceptés, respectés. Et elle raconte ce mercredi 7 janvier quand elle quitte la réunion de rédaction pour aller chercher sa fille à la crèche. Ils ont surgi du couloir en appelant Coco, Coco, des hommes forts, cagoulé, armé jusqu'aux dents, et je savais que c'était une Kalachnikov. Charb les dessinait tellement bien. Ça a été d'une fulgurance folle et ils m'ont dit on veut Charlie Hebdo, on veut Charb. Alors elle monte les escaliers, se trompe d'étage, tombe presque à genoux devant les terroristes, les mains sur la tête en criant pardon, pardon. Elle mime à la barre. J'étais comme dépossédée de moi, poursuit-elle, voix blanche. J'ai tapé le code, on m'a poussée à l'intérieur et j'ai vu Simon tomber de son siège. Autre pensée, absurde encore, c'est nul. Le bruit d'une arme, sec, tac tac. Elle se cache sous le bureau de Rhys, les tirs, un silence de mort, puis elle découvre l'étendue du massacre, le sang, beaucoup de sang, les jambes de Cabu, celles d'Elsa, j'ai enjambé Charb, Tinius, Honoré, j'ai vu Philippe. Un silence à nouveau et j'ai pensé, il n'a plus de visage. Philippe Lançon, grièvement blessé mais vivant, c'est le talent qu'on a assassiné ce jour-là, lance-t-elle. Sa voix reprend de la force, mais elle vit aussi le blanc intérieur, cette culpabilité qui la poursuit malgré le travail engagé avec un psychologue. Face à la cour, Coco redresse la tête, mais les seuls coupables, assène-t-elle, ce sont les terroristes islamistes, les Kouachi, ceux qui les ont aidés, et la société des complices qui baissent leur froc devant une idéologie.
Florence Thiom, merci. Florence Thiom, vous suivez pour France Culture le procès des attentats de janvier 2015 et merci aussi à Fabien Gosset pour les moyens techniques. La France effectue désormais plus d'un million de tests virologiques par semaine. C'était l'objectif fixé par le gouvernement dans sa stratégie de dépistage massif de la Covid-19. Mais les laboratoires sont aujourd'hui submergés par la demande et le personnel est au bord de la rupture, alerte Claude Cohen, président du syndicat national des médecins biologistes. Ce matin sur France Inter, Olivier Véran a expliqué qu'il fallait travailler sur la priorisation des patients. En clair, selon le ministre de la Santé, mieux définir ceux qui doivent se faire tester en priorité. Pour le médecin épidémiologiste Martin Blachier, la stratégie de massification des tests a atteint aujourd'hui ses limites.
La grande majorité des gens qui sont testés aujourd'hui, c'est des gens qui pensent qu'ils ont été en contact du virus. Or, les gens surestiment le risque de leur contact. La preuve, c'est que sur tous ces gens qui pensent qu'ils ont eu un contact, il n'y a que 5% de positifs. Ça veut dire qu'il y a 95% des gens qui pensent qu'ils ont eu un contact à risque. Or, ils n'ont pas eu un contact à risque. Donc, ce qu'il faut, c'est éduquer les gens sur ce que c'est qu'un vrai contact à risque. Et un vrai contact à risque, c'est passer au moins une heure et demie dans une pièce pas très grande, avec quelqu'un qui est porteur du virus, qui n'est pas masqué, surtout s'il a parlé. Donc, vous voyez, ça réduit un petit peu le champ de ce que c'est qu'un contact à risque. Le problème, c'est que les gens aujourd'hui ont l'information que quelqu'un dans leur entourage a été Covid+, et ils vont tous aller se faire tester, voire même se mettre en isolement. Ce qu'il faudrait, c'est avoir une méthode simple pour évaluer le risque de nos contacts, pour que chacun puisse, au moment où il pense avoir été à risque, élaborer un calcul, évaluer son contact et avoir la réponse si oui, c'est à risque, à ce moment-là, il va se faire tester et il est priorisé et il aura ses résultats rapidement, ou non, ce contact n'est pas réellement à risque, donc ce n'est pas la peine d'aller encombrer les queues des laboratoires d'analyse. Ça peut être un questionnaire en ligne, ça peut être des spots à la télé, ça peut être une application, ça peut être le pharmacien qui vous renseigne, le médecin généraliste. C'est très simple, hein, c'est des petites grilles, vous avez vert, orange, rouge, et vous avez les différentes dimensions, combien de temps ça a duré, comment ça s'est passé, à quelle distance vous étiez, est-ce que vous portiez un masque, est-ce que c'était en intérieur, est-ce que c'était en extérieur. Quelques variables comme ça vous permettent en 2 minutes de savoir si réellement vous étiez à risque.
Le médecin épidémiologiste Martin Blachier, cofondateur du cabinet Public Health Expertise, il répondait à Aurélie Kiefer. Jean Castex fait partie des Français qui vont subir un test de dépistage. Le Premier ministre est devenu un cas contact aujourd'hui, car il a côtoyé samedi pendant de longues heures le directeur du Tour de France. Et Christian Prudhomme a contracté le coronavirus, mais son état de santé n'inspire pas d'inquiétude. Première conséquence politique, le séminaire gouvernemental prévu demain à l'Élysée sous la présidence d'Emmanuel Macron se tiendra finalement entièrement en visioconférence. Alors que la crise sanitaire a plongé la France dans la récession, paradoxalement, le nombre d'entreprises en difficulté reste bien inférieur aux chiffres de 2019. Voilà ce qui ressort du bilan publié aujourd'hui par les greffiers des tribunaux de commerce. Entre mai et juillet, il y a eu 6037 défaillances d'entreprises, 42% de moins que l'an dernier. Les créations d'entreprises ont aussi diminué, mais dans une proportion plutôt limitée. Les explications de Marie Viennot.
En juin et juillet, 82 000 nouvelles entreprises ont vu le jour. C'est le transport qui tire ses créations vers le haut, notamment la livraison de repas à domicile. Mais ce sont surtout des micro-entreprises qui ont été créées et en rythme annuel, on est 5% en dessous de l'an dernier. Côté faillite, on ne constate pas encore de catastrophe. Au contraire, en temps normal, 2000 entreprises se déclarent défaillantes tous les 15 jours en France. Pendant le confinement, on était sur 500 à 800 et depuis le déconfinement, 1000 par quinzaine, mais c'est 2 fois moins que d'habitude. Les tribunaux de commerce n'ont jamais cessé leur activité. Ce qui explique cette baisse des faillites, ce sont les aides gouvernementales qui ont permis de maintenir à flot les entreprises affectées par le confinement, mais aussi d'autres entreprises moins viables à long terme. Voilà pourquoi il n'y a pas vraiment encore de quoi se réjouir, commente Laurent Frelat, directeur général de l'Institut Xerfi.
Le grand paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, la situation de trésorerie des entreprises est, entre guillemets, plus confortable qu'elle ne l'était avant crise. Alors, c'est pas pour autant une situation qui est rassurante pour l'avenir, parce que d'une certaine façon, on est face à un certain nombre de ce qu'on appelle en matière d'économie, des entreprises zombies, c'est-à-dire des entreprises qui ne survivent que parce que, justement, elles bénéficient de ces aides gouvernementales.
Qu'adviendra-t-il dans les mois prochains quand il n'y aura plus ces aides? C'est là qu'il pourrait y avoir une vague de faillite, n'exclut pas la présidente du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Elle espère que le plan de relance saura alors venir en relais des aides exceptionnelles accordées jusque-là.
Marie Viennot, merci. Et à l'instant, cette information dans le domaine de la construction navale, les chantiers Beneteau pourraient supprimer jusqu'à 1390 emplois, soit 1/6 des effectifs des chantiers navals Beneteau. Pour relancer l'économie française, le gouvernement veut développer les nouvelles énergies propres. L'hydrogène en fait partie. Le plan présenté ce matin prévoit un investissement de 7 milliards d'euros sur 10 ans. L'hydrogène a la particularité de pouvoir servir à la fois dans l'industrie et les transports. Philippe Boucli est président de l'Association française de l'hydrogène et des piles à combustible.
L'hydrogène se placera bien dans les secteurs qui sont difficiles à électrifier. L'industrie. L'industrie, c'est par exemple la sidérurgie, c'est par exemple la cimenterie, c'est par exemple la production d'engrais. Tous les domaines où il n'y a pas de solution électrique évidente possible. Et dans notre domaine, c'est tout ce qui est mobilité lourde, donc les bus, les camions, les bennes à ordures, les trains, les bateaux, et peut-être aussi un jour l'avion. et également la mobilité intensive, c'est-à-dire tous les professionnels qui ont peu de temps pour recharger les batteries, c'est-à-dire tout ce qui est logistique du dernier kilomètre, les véhicules utilitaires légers, mais également les taxis, et vous en avez plus de 120 à Paris, et également les chariots élévateurs. Donc vous avez là deux grands domaines, donc l'industrie où par exemple il faudra aussi de la chaleur haute température, là l'hydrogène se placera bien, et également, comme je disais, la mobilité lourde ou intensive.
Philippe Boucli de l'Association française de l'hydrogène, il répondait à Hakim Kasmi. Emmanuel Macron était à Clermont-Ferrand ce matin pour un déplacement consacré à l'égalité des chances. Au cœur du projet présidentiel, il y a les cordées de la réussite, un dispositif qui consiste à aider les jeunes à accéder à l'enseignement supérieur et aux filières les plus sélectives. Marc Potvin, bonsoir.
Bonsoir.
Emmanuel Macron a annoncé la montée en puissance des cordées de la réussite dans les prochaines semaines.
Oui, de 80 000 élèves concernés, on va passer à 200 000. Mesures pour promouvoir l'égalité des chances, explique le chef de l'État. Ce dispositif est en effet destiné entre autres aux collégiens et lycéens scolarisés en éducation prioritaire et il va changer, indique Emmanuel Macron.
Ça doit commencer dès la quatrième et on doit aider, permettre à l'ensemble des enseignants d'aller repérer les talents, de leur permettre à l'école d'avoir un tutorat renforcé, de leur permettre hors de l'école d'avoir accès à la culture, au sport, à tout ce qui justement permet ensuite d'être reconnu quand on arrivera dans l'enseignement supérieur ou la vie professionnelle.
Pas de quoi impressionner le syndicat enseignant SNES-FSU, d'autant plus que sa secrétaire générale, Frédéric Rollet, attend toujours un retour d'expérience sur ce dispositif créé en 2008.
Nous n'avons aucun bilan officiel de ce que donnent ces dispositifs. Il ne suffit pas que les jeunes aient réussi leur baccalauréat. Le but, normalement, c'est qu'ensuite, ils puissent intégrer une formation du supérieur choisie, leur donnant accès donc à une insertion professionnelle très réussie. Et on ne sait pas. Là, on n'a pas du tout de suivi de cohorte. On ne sait pas ce qu'ils deviennent véritablement après.
Pour la secrétaire générale du SNES-FSU, il y a mieux à faire comme renforcer les effectifs de psychologues de l'éducation nationale. Des professionnels, selon elle, aptes à convaincre ces élèves qu'ils peuvent faire des études après le bac malgré leur origine sociale. Emmanuel Macron, lui, promet de mettre les moyens, mais pour aider les parents de ces élèves, ils vont bénéficier de bourses pour financer les études supérieures de leurs enfants. Pour l'instant, pas d'indication sur leur montant.
Marc Potvin, merci. Dans une actualité tourmentée, alourdie par la crise du coronavirus, peut-on retrouver de la légèreté? Vaste sujet et vaste question que posera Emmanuel Laurentin à ses invités dans le temps du débat, juste après ce journal. Avec plus de 15 000 morts, l'Afrique du Sud est le pays africain le plus touché par la pandémie et l'économie sud-africaine est aujourd'hui à genoux. Le produit intérieur brut a reculé de 51% au deuxième trimestre selon les derniers chiffres officiels. Un plongeon sans précédent qui s'explique notamment par le strict confinement imposé à la population. Avant la crise sanitaire, l'économie sud-africaine était déjà en difficulté. Claire Bargelès nous appelle de Johannesburg.
Même si elle était prévisible, la nouvelle est un sévère coup de poing dans le ventre, selon l'agence de statistiques du pays. Ce recul colossal du PIB, subi entre les mois d'avril et juin dernier, s'explique en grande partie par la mise en place d'un des confinements les plus stricts du monde pour faire face à la pandémie de Covid-19. Au programme, fermeture des frontières, déplacements sévèrement restreints et activités limitées à quelques services essentiels. Ce plongeon du PIB est particulièrement rude pour les secteurs de la construction, de l'industrie manufacturière et des mines, avec un recul de l'activité qui dépasse les 70%. Et même si la production a depuis repris, les experts craignent de nombreuses pertes d'emplois avec des entreprises qui ont dû mettre la clé sous la porte. Or, l'économie de l'Afrique du Sud était déjà en crise avant même le début de la pandémie. Le pays connaissait la récession depuis 2019 et le chômage de masse avec 30% de la population sans emploi. Le président Cyril Ramaphosa a promis ce mardi la mise en place d'une nouvelle économie, avec notamment un plan d'investissement dans les infrastructures. Mais la convalescence pourrait prendre du temps. Le programme des Nations Unies pour le développement estime que le pays pourrait mettre 5 ans à se relever d'une telle crise, avec le risque, entre-temps, d'une explosion de la pauvreté.
Claire Bargelès, notre correspondante en Afrique du Sud. Mais où donc se trouve ce soir Maria Kolesnikova, enlevée hier dans les rues de Minsk? L'opposante biélorusse aurait été arrêtée ce matin à la frontière ukrainienne. dans des conditions rocambolesques. Rappelons que Maria Kolesnikova est aujourd'hui la principale figure de l'opposition encore présente en Biélorussie pour contester le pouvoir du président Loukachenko. Pour en savoir plus, direction Moscou, où nous attend notre correspondant Claude Bruyot. Bonsoir.
Bonsoir Stanislas.
Claude, Maria Kolesnikova aurait voulu s'opposer à son expulsion de Biélorussie, mais cette version reste à confirmer.
Oui, d'après son entourage, Maria Kolesnikova a préféré vivre dans son pays au risque d'être emprisonnée plutôt que de se voir affublée par le pouvoir biélorusse d'une image à bon marché de lâche qui abandonne les siens. L'opération des services de sécurité aux ordres d'Alexandre Loukachenko consistait à expulser, voire même à maquiller en fuite le départ de Maria Kolesnikova vers l'Ukraine, d'après ses proches. Mais l'ancienne flûtiste du conservatoire de Minsk a déjoué tous les plans échafaudés pour la discréditer, elle et ceux qui la soutiennent. Elle a su se rendre en quelque sorte non expulsable après avoir, selon ses sympathisants toujours, détérioré son passeport au poste frontière d'Alexandrovka entre la Biélorussie et l'Ukraine. Après l'arrestation de Maria Kolesnikova et le départ pour l'Ukraine d'Anton Rodnenkov et d'Ivan Kravtsov qui l'accompagnaient, la direction du comité de coordination qui fédère l'opposition Alexandre Loukachenko est réduite aujourd'hui à deux membres encore en liberté à Minsk, un avocat de 39 ans et Svetlana Alexievitch, le prix Nobel de littérature. Devant des journalistes de Moscou qui l'interrogeaient cet après-midi, le président biélorusse a précisé que Maria Kolesnikova, selon lui, avait été détenue dans les règles et que de toutes les façons, les solutions qu'elle prenait, je cite, pour le pays, ne pouvaient que conduire au désastre. Alexandre Loukachenko, Stanislas, a même profité de l'audience des médias russes pour annoncer un brin sentencieux que si son régime s'effondrait, eh bien, la Russie suivrait juste derrière.
Claude Bruyot, en direct de Moscou, notre correspondant en Russie. Merci. C'est un aveu qui prouve à quel point le Brexit est loin d'être réglé. Le Royaume-Uni a reconnu aujourd'hui violer le droit international en revenant sur ses engagements pris à la sortie de l'Union européenne. Londres et Bruxelles n'arrivent pas à boucler leur divorce. Au cœur des tensions, il y a notamment la question de la frontière irlandaise. L'accord initial prévoyait d'éviter le retour d'une frontière physique entre le Royaume-Uni et l'UE. Marie-Pierre Véro, le gouvernement britannique remet en cause certains points de cette disposition, ce qui est évidemment inacceptable pour Bruxelles.
Une admission quelque peu surréaliste en effet. C'est le ministre chargé de l'Irlande du Nord, Brandon Lewis, qui l'a reconnu cet après-midi lors des questions à la Chambre.
Je dirais à mon honorable ami que oui, cela enfreint le droit international d'une manière très spécifique et limitée.
L'opposition tône, certains ironisent, être un peu dans l'illégalité, c'est comme être un peu enceinte. Le conseiller juridique en chef du gouvernement a claqué la porte et le désarroi monte aussi dans les rangs de la majorité. Theresa May, l'ancienne Premier ministre, rappelle que le gouvernement a signé ce traité avec le protocole nord-irlandais, que le Parlement l'a adopté, que le gouvernement revient à présent sur sa parole. Dans ces circonstances, ajoute-t-elle, comment le gouvernement compte-t-il rassurer ses futurs partenaires internationaux sur la fiabilité du Royaume-Uni en matière de respect des obligations juridiques des accords qu'il signe ? Le risque d'une perte de confiance, Michel Barnier lui-même l'a évoqué, mais il n'y a pas que les Européens qui s'impatientent. Londres aussi fait connaître sa lassitude devant les blocages de l'Union, qui ne souhaiterait faire aucun compromis et menace de claquer la porte dès cette semaine en l'absence de progrès. Aucun n'a en tout cas été enregistré sur les sujets qui fâchent la pêche et la concurrence équitable.
Marie-Pierre Véro, merci. La session du Parlement européen prévue la semaine prochaine à Strasbourg a été annulée. Elle se tiendra finalement à Bruxelles. Le président du Parlement, l'italien Davide Sassoli, invoque un risque sanitaire trop élevé lié à la Covid-19. Les autorités françaises viennent de classer en zone rouge Strasbourg et l'ensemble du département du Bas-Rhin. En Italie, l'état de santé de Silvio Berlusconi continue à s'améliorer. L'ancien président du Conseil avait été hospitalisé la semaine dernière en raison d'une infection pulmonaire due à la Covid. Ses médecins évoquent aujourd'hui une évolution favorable de la maladie. Tous les paramètres sont rassurants selon leur communiqué. Silvio Berlusconi est âgé de 84 ans et il continue à jouer un rôle dans la politique italienne avec son parti Forza Italia. On termine avec le temps. Demain, ensoleillé en général, sauf sur le sud-est. Une dégradation pluvieuse est attendue entre le golfe du Lion et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. À noter également un ciel nuageux sur le quart nord-ouest. Les températures le matin seront comprises entre 7 et 20 degrés du nord-est à la Méditerranée. L'après-midi, il fera entre 20 et 32 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun.